Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Kipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour,
bonsoir,
bienvenue
à Cour d'honneur,
saison 5, épisode 13.
C'est l'heure de votre émission préférée parce qu'on sait que vous n'en avez jamais assez.
Le printemps arrive à grands pas, chers auditeurs, mais ce n'est pas une excuse pour sécher les cours en traînant dans le parc Monceau.
Sauf si c'est pour écouter Cour d'honneur en caressant l'herbe.
Ou en cueillant des fleurs.
Toujours pas de bouquet pourtant.
Mais plutôt des micros.
Pour vos basses ladies préférées.
Et oui, Swan.
Et Ellie.
En attendant de demander quelle est ma fleur préférée.
Ce soir, on se pose cette question.
C'est quoi être étudiant à la Sorbonne ?
On vous répond justement sur Radio Sorbonne Université.
Votre magazine préféré d'infos et de culture.
Qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus.
En direct un mercredi sur deux.
Sur... Ou un samedi par mois sur Radio Campus Paris.
Pendant une heure, on va...
Parler d'amour.
T'as dit quoi, Léane ? Répète plus fort.
De grandes chambres de bonne.
Ah, moi aussi, je t'aime, Léane.
De grandes chambres de bonne.
Oui. Un studio, quoi.
Un petit studio.
Un petit studio. Une studette.
Et de jardin.
Ah. Oui, c'est à moi. C'est moi qui les ai plantés. Plantés.
Et voici nos promesses.
Avec la meilleure des équipes pour vous servir. Et tout d'abord avec toi, Swan.
Et oui, effectivement, je vous ai concocté un petit débat. Et toi aussi, Ellie.
Et oui, moi j'ai le plaisir d'avoir Raphaël Lavie que je vais interviewer dans l'interview ce soir.
On a hâte.
Et aussi Clara, bonsoir, qui revient toute bronzée de Guadeloupe.
Bonsoir, ah ben voilà, je me demandais qui allait le remarquer en premier, merci Ellie. Alors moi ce soir, je ne vais pas vous parler d'un couple de cinéma, bien que François et Adèle, ça pourrait faire penser au cinéma, ce sera un couple de la Sorbonne.
Ouh là 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 là, on a très hâte. Non, je rigole, pas d'amour ici. Bonsoir aussi à Romain.
Bonsoir, alors moi je vous ai préparé un petit reportage sur les chambres de bonne d'étudiants à Paris.
Ok.
Ensuite, on a Mathilde. Bonsoir.
Bonsoir. Aujourd'hui, on va voir si on peut manger pour moins de 10 euros dans la France d'Emmanuel Macron. Et on va aussi faire une petite visite du jardin du Luxembourg.
Ça devient bien rare.
Ok, oui, clairement. Et bonsoir aussi à Lavinia.
Hello les filles. Alors, pour la chronique pavée de ce soir, je vous ai préparé une chronique sur le premier journal étudiant parisien, les cancans du quartier latin.
Nos plus grands ennemis.
Et enfin, le fameux Elias.
Et bonsoir, moi ce soir je vous parle de Romane Dicot, une super judokate française dans le Sorbonne en personne.
Et oui, rappelons qu'il y a des sportifs à la Sorbonne, sans oublier le grand, le fameux et célèbre Notre Maman, Thomas Schnell. Bonsoir.
Bonsoir à tous, moi ce soir je vous explique pourquoi vous êtes des grosses quiches en informatique.
Génial.
Adorable.
Allez, que vous soyez en pleine session de révision.
En train de vous dorer la pilule avec le beau soleil dehors.
Ou encore en train de texter votre ex.
Oulala, on vous accueille parmi nous pour la prochaine heure. Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment
carte blanche.
On commence par le coup de gueule de la semaine, l'édito. Jade devait s'en occuper, elle est blessée, cœur sur elle. C'est Thomas qui relève le défi. Thomas, la semaine dernière, la marque Apple a annoncé le lancement d'un nouvel ordinateur portable à moins de 1000 euros. Une petite révolution qui pourrait réconcilier notre génération avec l'informatique.
Combien de fois encore devrais-je expliquer à mes étudiants qu'il faut toujours exporter un document en PDF avant de l'envoyer ? Pour un prof, un employeur, que ce soit un CV, une lettre de motivation, trop souvent encore, moi-même, je reçois des documents que je ne peux pas ouvrir et mes étudiants, eux, de ne pas comprendre la différence entre un format Word, un format Pages, un format XLR. Voyez-vous, jeunes gens, on touche là du doigt le grand écart de génération. La mienne, la dernière née avant l'émergence d'Internet, qui a appris à maîtriser ses outils, exporter, utiliser les raccourcis clavier, comprendre les mots, carte graphique, prise RJ45, domaine, serveur, navigateur, forum, autant de leviers de compréhension d'un univers qui était alors plein de promesses, ouverture, partage et liberté. un savoir-faire qui s'est petit à petit perdu. Aujourd'hui, votre génération ne sait plus se servir d'un ordinateur parce qu'elle passe son temps sur un smartphone, ne maîtrise plus l'utilisation des logiciels parce qu'elle n'utilise plus que des applications. J'apprends à mes étudiants parfois l'existence du CTRL-Z. Je me rends compte que certains n'ont même pas d'ordinateur à la maison, seulement une combinaison tablette, Chromebook et smartphone. Qui possède encore autour de cette table un lecteur CD ? Bref, je vous conjure de vous pencher sur l'informatique, car lorsque vous arriverez dans une entreprise, et n'importe laquelle, hein, tous les employeurs estimeront que votre maîtrise de l'informatique est acquise et vous appelleront à l'aide pour se connecter à l'imprimante, pour retrouver le nom d'un fichier modifié, pour récupérer l'audio d'une vidéo ou encore modifier l'aspect du site via le back-office. Et si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, inquiétez-vous. Bisous.
Merci, merci Thomas pour ce joli petit édito. Et sur ce, il est 18h05 sur Radio Campus Paris et 20h05 sur Radio Sorbonne Université.
Et oui, même si Thomas, tu viens de nous parler chinois, dans la vie, il y a des hauts.
Il y a des bas.
Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Lundi matin, j'ai fait une formation PSA un peu humiliante puisque j'avais tout oublié depuis le collège, mais aussi parce que je suis définitivement incapable de sauver quelqu'un. Hashtag week. J'ai bien appris un truc, moins de 40% des Français seraient comme moi, incapables de réagir face à une situation de danger. Et guess what ? En Norvège, 90% ont reçu une formation de premier secours et peuvent se transformer en héros sans souci au coin de la rue Rivoli pendant que tu te coupes en coupant des carottes. Bref, avec tout ça, je suis allée vous demander si les formations de PSC1 ou VSS sont obligatoires pour les étudiants membres d'une asso, ne devraient-elles pas l'être pour tout le monde ?
Moi, j'ai pris quelques cours comme ça quand j'étais au collège. J'étais assez petite, mais je me souviens encore assez bien. Et je pense que ça devrait être pas forcément obligatoire, mais ça pourrait être très bien et très utile, notamment si par exemple quelqu'un marche dans la rue, il y a une personne qui du coup tombe, c'est mieux que de regarder et rien faire.
À mon avis, ça devrait être obligatoire au lycée avant de passer le bac par exemple, au moins d'avoir quelques cours. Moi je pense que le PS1 ça devait être obligatoire, enfin en tout cas moi je l'ai passé quand j'étais en 4e et en 3e, et je pense que c'est hyper important quand on est jeune, qu'on sort et que parfois on peut se mettre en danger de savoir réagir, parce que le PSC1, il y a beaucoup de gens qui voient ça en mode les premiers secours, mais c'est aussi le basique, c'est les numéros d'urgence, c'est savoir quoi appeler, comment mettre les gens en position, c'est être plus efficace quand les urgences ils arrivent, c'est même du coup pour soulager tout ce qui est personnel ambulancier.
Oui, je pense que c'est important que tout le monde puisse faire le PSC1. Parce qu'on peut tous être confronté au fait de devoir secourir quelqu'un. Donc,
Je pense que c'est très très important ce genre de formation. À la fois pour vraiment comprendre quels sont les premiers gestes et les premiers soins à pouvoir apporter à quelqu'un, et aussi pour connaître les bonnes pratiques en soirée ou dans des événements. C'est vraiment intéressant de pouvoir avoir toute cette vue globale en fait des champs des possibles.
Oui, donc pour moi ce genre de formation c'est important, la PSC1 déjà pour adopter les bons gestes, parce que finalement c'est des choses qu'on oublie, et la VSS encore plus important pour éviter que des catastrophes se produisent et pour que les gens se rendent compte de tout ça. Mais malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas rendre obligatoires.
Alors avant même de vous poser la question, est-ce que ça devrait être obligatoire, même pour les personnes qui ne font pas partie d'une asso, déjà, est-ce que vous vous sentiriez capable, est-ce que vous vous sentiriez capable de faire les gestes de premier secours si vous voyez quelqu'un tomber devant vous et de pouvoir dire si elle fait un malaise, si elle fait un arrêt cardiaque, si juste elle s'étouffe ou si juste elle s'endort ou elle perd connaissance ?
Alors moi il y a une petite difficulté pour le bouche à bouche. J'avoue que je sais pas, avec Mathilde on en
c'est
parlait.
C'est pas obligatoire.
Non mais voilà, je pense que déjà je ne serais pas forcément capable. Et après c'est vrai qu'il y a ce truc un petit blocage. Mais ce qui est la réanimation, moi je sais que ça m'avait pas mal marqué, le truc de suivre le tempo de la musique.
Oui, il nous l'a ressorti d'ailleurs lundi matin.
Voilà, il y a des petits
trucs
comme ça.
Hormis ça,
on peut expliquer.
C'est qu'il faut un rythme précis.
Oui, en fait, il faut presser sur la cage thoracique de la personne qui ne respire plus ou difficilement en suivant le rythme de cette musique Staying Alive.
C'est pas qu'il respire plus du coup.
Bah, tu peux faire. Il y a des gens qui ont une. Alors, je sais pas le terme scientifique, mais qui ne respirent plus.
Arrêt
respiratoire ou perte de connaissance, ou alors suite à une une noyade, mais qui ne mène pas à la mort définitive, qui sont en état de entre les deux.
Parce que moi, j'avais entendu ça justement pour les arrêts cardiaques.
Surtout pour les arrêts cardiaques.
Ouais. C'est ça. Ouais. Parce que si le cœur de la personne fonctionne encore et que tu lui appuies comme un fou dessus, je suis pas sûr que ce soit super bon non plus.
Alors c'est pour ça que lorsqu'une personne a une perte de connaissance, tu vérifies. Oh, je sors ma science. Tu vérifies si cette personne respire. Tu mets tes deux doigts sous son nez et tu écoutes. Et si au bout de 10 secondes il y a aucun souffle ni aucun son qui sort, ça veut dire que il y a un arrêt cardiaque et c'est là que tu peux faire comme tu dis le geste. Mais sinon faut pas les sortir à tout moment comme ça.
Bah, je pense que justement, c'est à ça que ça sert aussi, les formations.
Exactement.
C'est parce qu'on peut avoir entendu que c'est bien dans une certaine situation, mais soit on ne se souvient plus, soit on n'a pas très bien compris. Et au lieu de rien faire, c'est toujours... Bon, c'est pas toujours mieux de faire quelque chose, justement, parce que c'est pas mieux de faire quelque chose qui n'est pas adapté pour la personne, surtout si déjà tu vois qu'elle est en galère par terre.
Mais dans ce cas, est-ce que vous savez déjà quel est le minimum lorsque, si vous voyez quelqu'un tomber de vous dans la rue, mais vous ne savez absolument pas quoi faire, parce que vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas lui parler et perdre connaissance, quelle est la première chose à faire parce qu'en fait, si vous ne faites rien, vous pouvez être attaqué pour non-assistance à personne en danger. Donc selon vous, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
Peut-être la mettre en position de...
Avant même de la toucher. Ah ouais. Attention, terreau surprise.
Bah, je sais pas, on appelle les secours.
Bah ouais, c'est juste ça, en fait. Donc comme tu dis, c'est alors on peut avoir oublié tout ça, et dans ces cas-là, il y a quelque chose que tout le monde devrait savoir, c'est les numéros et savoir comment appeler. Juste décrire l'état de la personne, dire où vous êtes, c'est le strict minimum. Et ça, il y a des gens, on s'est rendu compte dans la formation, qui ne savaient même pas le faire.
Ah oui. De quoi appeler?
Savoir comment bien appeler et bien décrire la situation dans laquelle c'est.
Et même connaître le numéro, le 15, je crois que tout le monde ne le connaît pas. Hein. Même les pompiers, la police, les gens confondent parfois.
Bah ça, c'est important d'en parler pour les auditeurs d'ailleurs. Le 18, les pompiers, le 17, la police, le 15, le SAMU.
Et le 114, 112. Les messages aussi.
Ah oui,
c'est vrai. Malentendant surtout.
Et 112, numéro d'urgence européen.
Exact.
Vous trouvez en Europe.
Exactement.
Et c'est bien d'avoir un moyen mnémotechnique, parce que moi, je pensais les savoir. Et quand j'étais dans une situation où j'ai dû appeler, je ne savais plus. J'ai tout confondu.
Et justement, donc c'est ça. Mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Moi aussi, j'ai eu une certaine situation comme ça où, sur le moment, j'ai paniqué et j'étais incapable de me souvenir aucun des numéros, alors qu'à ce moment-là, j'étais jeune et je m'en souvenais normalement. Donc, comment est-ce qu'on fait? Enfin, est-ce que pour vous, le fait qu'on soit en état de choc, est-ce que c'est juste un manque de connaissances ou c'est juste les personnes se mettent à stresser tout d'un coup? Et dans ce cas, revenons à la première question, est-ce qu'on ne devrait pas rendre obligatoires ces formations?
Si, si, moi je pense qu'on devrait les rendre obligatoires, mais est-ce qu'elles le sont au collège, par exemple?
Elles ne sont pas obligatoires, mais on peut les prendre et c'est très bien.
Ouais, moi j'en avais fait une au collège, la dernière fois il me semble, mais je t'avoue que j'avais 13 ans, quoi, donc c'est presque 10 ans, c'est donc ça commence à faire.
Tous les traumas après, on oublie.
Bah, c'est ça, j'en ai eu aussi au collège. Je me souviens de comment mettre quelqu'un en position latérale de sécurité et des gestes de premier secours. Après, je pense que je ne me rappelle pas de tout. Donc ce serait bien d'en proposer régulièrement, donc au collège, puis au lycée et même dans le supérieur. En tout cas, proposer des formations comme ça.
Ouais, parce que les moyens mnémotechniques, là, moi, je viens de réécouter Stay in Alive, ça marche pas du tout.
Il y avait aussi apparemment Baby Shark.
Mais comment ça marche pas, Thomas?
Je sais pas, tu fais quoi au début de la chanson quand il dit
mais non, mais non, mais non, mais
et tu attends que le refrain vienne, donc en attendant il meurt, mais c'est pas grave, il faut attendre un peu.
Non. Le début de la chanson, ça commence vachement chill,
écoutez
un peu
le
les Bee Gees, on en reparlera.
Il faut déjà deux battements par minute, c'est tout ce qu'il faut retenir, c'est très bien.
Alors
par
déjà,
seconde,
s'il faut,
par seconde.
S'il faut écouter que le refrain vienne et que t'as pas YouTube Premium et que t'es là avec ta pub.
T'as la pub, t'imagines, il met comme ça.
Non, juste sur les formations aussi, je voulais rajouter, alors oui, je suis totalement d'accord qu'elles devraient être obligatoires, et surtout de faire à chaque élève, en fait, parce que c'est différent de regarder quelqu'un faire,
mais bien sûr,
mettre en position interne. Oui,
c'est
mais
ce
moi,
qu'on
en fait,
fait durant les formations.
Ouais, toi, bah, moi, au collège, il n'y avait pas tout le monde qui avait essayé. C'était est-ce qu'un volontaire?
Parce que c'était le collège, justement. Tout, ouais. Nous, c'était des petits groupes, maximum 10, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a jamais de place, donc... Inscrivez-vous. Et en fait, on avait déjà 4 heures de e-learning. Donc, c'est des cours que tu prends en classe chez toi. Et une fois que tu as validé ça, tu peux accéder aux cours en présentiel. Et une fois que tu es en présentiel, c'est tout le monde y passe. Et tu dois jouer et la victime, et le sauveur, et le SAMU, et machin, et truc. Jouer la victime, c'est fun. Le reste, c'est stressant.
Mais après, pour répondre à la question de base, je pense que c'est pas parce que tu as fait la formation que tu paniques pas au moment où tu te retrouves face à la situation. Parce que tu peux avoir fait la formation et tu vois quelqu'un tomber devant toi. Et tu sais pas quoi faire, tu paniques, et même tu te dis j'ai fait la formation, je devrais faire quelque chose, ça peut-être te faire stresser, sachant que bah, tu dis que t'es responsable. Et je pense que certes, je pense que c'est une chose primordiale même de faire ces formations-là, mais que ça n'exclut pas le fait d'être tétanisé quoi devant une situation qui fait peur.
Exactement.
Non,
exactement.
C'est sûr, mais même si t'es tétanisé le moment venu, je pense que tu peux aller chercher quelqu'un en renfort et au lui minimum, expliquer au moins les gestes. Tu vois, si toi tu les connais, tu peux lui expliquer et lui peut le faire à ta place éventuellement. En tout cas, vaut mieux quand même avoir suivi une formation.
Ah bien sûr.
Et après aussi, je voulais demander par rapport aux formations, parce que forcément, il n'y a pas que PSC1 qu'on est obligé de faire. Ah, eh bien, on n'en parlera pas. Il y en a d'autres et vous le saurez.
Une prochaine fois.
Dans 2 semaines, exactement. Bon, allez, assez parlé de formation du coup. Parlons de ceux qui n'ont pas eu besoin d'être formés pour faire partie des grands de l'industrie musicale française. Ils se sont tous les deux imposés très jeunes sur la scène et sortent enfin un feat ensemble. Tout de suite, vous écoutez Théodora et PLK dans Sexe Modèle.
Rien de personnel, elle sait s'occuper d'un homme zinc où j'en perds le sommeil. Je suis devenu bête, même fatigué, je reste hôtel. Mais c'est une pirate, elle est peut-être sur Sexe Modèle. Sex model, mais c'est une pirate, elle est peut-être sur sex model, elle est exceptionnelle, exceptionnelle, mais c'est une pirate, elle est peut-être sur sex model. Apprêtée à maquiller, tout le monde veut la marier, compte les demandes par milliers, le teint bronze est vanillé, foot de acteur étranger, Marbé Dubaï est Tanger. Madame aime l'attention, elle aime le danger, elle boit de nuit à tous les soirs, elle est là-bas tous les soirs, elle est pas là pour les soirs. Elle a cassé tous les cœurs, elle préfère les fesses que les fleurs, les fesses que les pleurs. Avec elle, sois pas trop sentimental. Je la connais à peine, mais y'a déjà trop de gens qui m'en parlent. Je lui fais un boulot, y'a rien de personnel. Elle sait s'occuper d'un homme zinc où j'en perds le sommeil. Je suis devenu bête, même fatigué, je reste hôtel. Mais c'est une pirate, elle est peut-être sur sex mode. Sex model, mais c'est une pirate, elle est peut-être sur sex model. Elle est exceptionnelle, exceptionnelle. Mais c'est une pirate, elle est peut-être sur sex model.
Le roi des rois, j'aime bien peut-être que c'est le bon. J'entends son nom dans toutes les rues et sur le pont. Il me voit en pirate, cause d'un cas d'été un con. Bébé, pour le jeu là, je lui dis que je suis le con. Et moi je suis sexy, mais là je veux pas de corps à corps. Il me dit texte, mais vérité, les mots des accords. Mais tu m'as porté dans le décor, t'es un con, bébé. Avec Boss Lady, tu veux flirter sans accord. Tu veux flirter sans accord. Flirter sans accord, bébé. Tiens, emballé comme un cadeau, j'ai les cordes. J'espère que t'aimes les cordes. Et s'il te plaît, sors les cornes, bébé. J'ai le fils à un triangle en bas du corps.
Je lui fais un boulot, y'a rien de personnel. Elle sait s'occuper d'un homme zinc où j'en perds le sommeil.
Il est 18h17 sur Radio Campus Paris et 20h17 sur Radio Sorbonne Université. Vous venez d'écouter Sex Model sur Cours d'honneur, nouveau feat de Théodora et PLK, qui est sorti le 20 février. Pendant que l'ours PLK enfin finit d'hiberner, on dirait bien que Théodora passe plus de temps à sortir des sons en feat qu'à préparer son album solo. Mais bon, c'est ok, on lui en veut pas, puisque ce soir nous avons l'honneur de recevoir Raphaël Lavie tout de suite dans l'interview.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Alors, eh bien, écoutez, on a très hâte d'avoir cette petite interview. Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation.
Bah avec grand plaisir, vous pouvez remercier Ellie surtout. Nous t'écoutons pour tes superbes questions.
Eh bien, merci Raphaël Lavie, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes doctorant et professeur agrégé à Sorbonne Université en histoire contemporaine, mais également dans le champ de recherche de l'histoire médicale, économique, des innovations et des relations internationales. Et c'est de tout ça qu'on va parler ce soir. Et du coup, ma première question, c'est selon vous, est-il important d'étudier l'histoire pour comprendre les relations diplomatiques actuelles entre les États et pourquoi ?
Moi, je vais forcément dire oui, parce que j'ai une formation d'historien, j'ai fait la licence d'histoire, master d'histoire, et les relations internationales, c'est un des champs de l'histoire. Après, on peut les aborder via d'autres cursus, les sciences politiques, même des études de relations internationales, mais ça permet d'avoir une profondeur historique, ça permet d'avoir aussi certains concepts propres à la licence d'histoire. Donc, c'est un des champs sur lesquels je travaille, mais je dirais évidemment que oui, l'histoire, c'est important.
Ok. Et justement, j'imagine que vous travaillez avec des archives. Donc, quel rôle jouent les archives et les sources diplomatiques dans votre travail de recherche ?
Alors ça c'est une question très intéressante parce que en fait les archives c'est le cœur du travail de l'historien. Donc c'est notre matière première. On essaye de trouver des archives. Alors parfois elles ont déjà été utilisées, parfois elles sont inédites et c'est à partir de ça qu'on va avoir le point de vue des différents acteurs. Ça évite de passer par la presse ou des livres et donc d'avoir moins de biais et accéder le plus directement possible au point de vue des personnes de l'époque. Donc c'est ça le rôle des archives.
Pour ça qu'on consulte. Est-ce que vous avez peut-être des découvertes inattendues ou un peu farfelues dans vos recherches ou par curiosité?
Je pense qu'avec les autres doctorants, on tombe très souvent sur des choses farfelues, mais même parfois pour trouver les archives, ça peut l'être aussi. Moi, j'ai certaines archives qui sont privées, parfois c'est des laboratoires privés. Et pour y accéder, les gens qu'on rencontre ou ce qu'on trouve dans ces archives, oui, ça peut être, ça peut sortir du commun.
Très bien. Et j'aimerais également faire un lien avec votre thèse qui se nomme « Entre Europe et États-Unis, la génétique médicale des années 1940 aux années 1990, éthique, technosciences et médecine ». Je pense notamment, par exemple, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la politique médicale qui est menée par Trump, où il y a quelques mois, il critiquait le fait que selon lui, les Français ne payaient pas assez cher leurs médicaments. Ma question est donc, en quoi l'univers médical constitue un outil majeur dans les relations diplomatiques ?
Alors c'est une question costaud quand même, j'essaie d'y répondre de la manière la plus claire possible. La question des médicaments et de Trump, je pense que c'est une question qui est très nationale. Le lien entre l'histoire médicale et l'histoire des relations internationales, il va plutôt se faire dans les coopérations sur certains projets. Moi par exemple je travaille sur les projets génome, donc c'est quand... En fait, c'est quand les différents États ont voulu connaître la séquence de l'ADN humain. Et donc ça, c'est un projet très coûteux. Et dans ces cas-là, il y a des coopérations internationales. Et là, effectivement, il y a un lien relations internationales et histoire médicale. Pour la politique, pour le welfare, donc pour la politique des médicaments de Trump, là, ça va être très national au contraire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Si, c'était très clair. Et revenons à un peu plus l'histoire globale. Dans quelle mesure les événements historiques continuent-ils d'influencer les tensions ou les alliances internationales aujourd'hui ?
Vous voulez dire dans le champ médical ou globalement ?
Globalement.
Ah ben globalement, encore une fois, moi je vais avoir un biais très historique, donc je dirais que oui, là si par exemple on parle du Moyen-Orient, évidemment, connaître l'histoire du XXe siècle, ça explique énormément de choses sur les relations de l'Iran, le Liban, Israël. Tout ça, ça a des racines au XXe siècle. Alors, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais comme on enseigne aussi en licence, c'est des choses qu'on voit. Et je pense que la profondeur historique est essentielle si on veut comprendre certaines oppositions et certains retournements.
Et justement, si on peut faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment avec les crises internationales actuelles comme la guerre en Ukraine ou les tensions au Moyen-Orient, comme vous venez d'en parler, est-ce que vous voyez des parallèles historiques qui peuvent nous aider à comprendre la situation pour ceux qui seraient un peu perdus ou inquiétés ?
Alors bon, moi je vais être humble, c'est pas du tout ma spécialité. En plus, je suis doctorant, donc je suis un jeune chercheur et c'est une question vaste. Mais... Par exemple, ce matin, on a parlé du choc pétrolier avec les licences 2 d'histoire. Et ben, le choc pétrolier de 1973, c'est une guerre au Moyen-Orient qui amène une hausse du prix du baril de pétrole. Forcément, ça peut faire penser à aujourd'hui.
Et on a aussi beaucoup entendu le terme de guerre froide sur certains plateaux télé. Et est-ce que vous pensez que nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase des relations internationales comparables à la guerre froide ou...
Alors là, encore une fois, je suis désolé, moi je ne me mouille pas beaucoup. Il y a des spécialistes de la guerre froide à Sorbonne Université, je pense à Mme Momzikoff, Mme Davion, Mme Saint-Gilles. Est-ce qu'on est dans une nouvelle phase de la guerre froide ? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire non, parce qu'il y a bel et bien une sortie de la guerre froide dans les années 90. C'est un cours d'ailleurs qu'on enseigne en deuxième année. La guerre froide est quand même caractérisée par un affrontement idéologique aussi entre communisme et capitalisme. Il y a des éléments comme celui-là qu'on retrouve beaucoup moins aujourd'hui, mais il y a d'autres éléments. Si on voit la guerre froide sous la forme d'impérialisme, ce que certains auteurs disent, Il y a des éléments, effectivement, d'impérialisme russe, américain, qui existent aujourd'hui, tout à fait.
Et question un peu plus moderne, on va dire, dans l'air du temps, puisqu'on est vachement connectés aujourd'hui, même nous, comme Thomas le disait tout à l'heure. Comment les réseaux sociaux et la communication instantanée transforment-ils, selon vous, la diplomatie entre États ?
Question difficile pour un historien, parce que moi, je travaille sur des gens qui, souvent, n'avaient même pas Internet. Je pense qu'il faudrait poser la question à des gens qui sont dans la diplomatie actuellement. Moi, je n'ai pas cette expertise-là.
Et est-ce que Internet vous a aidé dans vos recherches ?
Pour le travail d'historien, oui, c'est... En fait, il y a une transformation totale du travail d'historien, parce que avant, il fallait aller aux archives systématiquement. Aujourd'hui, il y a des campagnes de numérisation. Et par exemple, moi, je travaille sur les États-Unis. Les États-Unis ont commencé à numériser la plupart de leurs archives. Et ça évite des voyages, ça évite de longues recherches dans les cartons. Cependant, il se trouve que l'élection de Donald Trump a totalement interrompu ce processus et que l'accès aux archives américaines est beaucoup plus compliqué.
Et est-ce que vous pensez, revenons sur Trump, etc., ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que l'histoire, vous pensez qu'elle peut réellement aider les dirigeants politiques à éviter certains conflits, parce qu'on a un peu l'impression que l'histoire se répète?
Ce qu'on m'a enseigné en licence d'histoire quand j'étais étudiant, c'était que si l'histoire aidait vraiment à éviter les conflits, ça serait le cas depuis longtemps. Et c'est la désillusion qu'ont eu des historiens, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et même après. L'histoire, je pense, sert surtout avant tout à comprendre le présent, le prévenir, influencer le futur. Ça, c'est une ambition que les historiens se gardent d'avoir pour ne pas être dans l'embarras.
Et si vous deviez retenir une leçon de l'histoire des relations internationales qui serait utile aujourd'hui, ou en général, laquelle serait-ce ?
Je pense que moi, je travaille donc sur l'histoire des relations internationales et notamment comment les pays ont coopéré dans des grands projets scientifiques, si je dois résumer. Je pense que de manière générale, l'histoire, ça montre qu'il y a eu différents modèles dans le passé, il y a eu différentes expériences. Et par exemple, sur la coopération internationale, on peut quand même tirer des leçons de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, tout en le remettant dans son contexte.
Et je reviens un peu sur les archives. Par curiosité, encore une fois, vous avez dit que vous avez trouvé des choses un peu farfelues dans les archives. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples ?
Ce qui me vient en tête, c'est pas spectaculaire, mais par exemple, moi, je travaille sur des scientifiques et souvent, les archives qu'on a, par exemple, ils vont à des congrès. Alors, dans les archives, on retrouve leurs brouillons où ils dessinent parce qu'ils s'ennuient pendant le congrès, par exemple. Ou alors, ils font des commentaires. Cette personne-là, je l'aime pas, il raconte n'importe quoi. Voilà le genre de choses qu'on trouve aux archives parce que là, c'est de la donnée brute. Il n'y a pas eu de filtre dans la plupart des archives.
Très bien. Cette interview touche à sa fin. Mais avant qu'on se quitte, j'ai une dernière question qu'on pose à tous nos invités, et vous n'y échapperez pas. C'est que représente la Sorbonne pour vous ?
La Sorbonne pour moi... Alors moi, j'ai fait mes études dans le sud de la France, à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Et pour moi, la Sorbonne, c'était d'abord un peu un mythe. Parce qu'en plus, quand on est en licence d'histoire, la Sorbonne, c'est un lieu d'histoire, c'est un lieu où des grands historiens sont passés. Et maintenant, c'est surtout le lieu où je fais ma thèse. C'est un lieu de grande opportunité. Je suis très heureux de pouvoir faire ma thèse à la Sorbonne, qui est quand même... il y a des moyens pour la recherche, il y a des moyens pour l'enseignement. Et donc, si je conclure sur ça, la Sorbonne, c'est vraiment un lieu de recherche internationale dont je suis fier de faire partie.
Eh bien, merci Raphaël Lavie d'avoir été avec nous ce soir.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes doctorant en histoire contemporaine ainsi que professeur agrégé à Sorbonne Université. Vous réalisez votre thèse intitulée « Entre Europe et États-Unis, la génétique médicale des années 1940 aux années 1990, éthique, technosciences et médecine ». Et elle a pour but d'analyser la manière dont s'est formée la génétique médicale moderne depuis les années 40 aux années 90 à travers deux parties du globe bien distinctes. D'une part l'Europe à travers la France et le Royaume-Uni et d'autre part les États-Unis. Merci.
Merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous, Monsieur Raphaël Lavie, et merci à toi, Élie, pour cette interview. On a toujours envie d'en savoir plus après ces 10 minutes. Et dans tous les cas, nous ne pouvons plus attendre, puisque c'est l'heure du reportage.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
À Paris, se loger quand on est étudiant, c'est souvent mission impossible. Certains finissent sous les toits dans quelques mètres carrés. Reportage sur ces chambres de bonne devenues le quotidien de nombreux étudiants.
Six étages sans ascenseur, 9 mètres carrés sous les toits. À Paris, beaucoup d'étudiants vivent dans ce qu'on appelle des chambres de bonne. Des logements minuscules qui transforment parfois le quotidien en véritable exercice d'adaptation. Jade, étudiante en troisième année à la Sorbonne, habite depuis quelques mois dans une chambre de bonne de 6 mètres carrés.
La première fois que je suis arrivée dans mon appartement, il était 1h du matin, il était au 6e étage sans ascenseur. Donc avec mes deux valises, j'ai ouvert la porte et en fait c'était encore plus petit sans rien dedans. Il faisait donc 6 mètres carrés, c'était minuscule mais en vrai, mine de rien, je trouve qu'il est quand même super bien aménagé. C'est un lit simple, il y avait un petit bureau et il y a 2-3 rangements, donc il est assez bien aménagé. Au début, la première émotion que j'ai eue, c'était le choc. Franchement, c'était tellement petit, c'était tellement minuscule. Au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment je vais faire pour tenir. J'étais un peu choquée parce que c'était pas comme sur les photos. Puis après, les premières heures passées et tout dedans, j'ai commencé à ressentir un peu genre de la joie, j'étais contente d'avoir mon premier appart.
Dans ces logements souvent situés sous les toits, l'espace est limité, mais ce n'est pas la seule contrainte.
Pour ce qui est salle de bain, en fait, c'est un contrat un peu particulier. J'ai pas de douche. Je suis obligée de me doucher chez les locataires d'en bas. Ce qui est un peu compliqué parce que du coup, je dois descendre les 6 étages vu que c'est du côté de la porte de sécurité et je dois aller chez eux. J'ai une douche, je me douche moi avec, dans la salle de bain avec les enfants. Donc c'est un peu compliqué vu que t'as la chambre des enfants qui est juste à côté. Donc je peux pas non plus me doucher à l'heure que je veux. Mais après, ils sont souvent pas là le matin. Donc du coup, je peux me doucher le matin. Et les toilettes sont sur le palier. Quand je vais aux toilettes, il y a de la lumière que entre 8h et 16h. Puis après, on voit plus rien. La lampe marche pas. Elles sont un peu loin. J'ai pas non plus une énorme marche, mais j'ai quand même au moins 30-40 secondes dans le froid à passer entre les couloirs et elles sont un peu terrifiantes, franchement, c'est un peu douteux.
Dans ces étages réservés autrefois aux domestiques, la proximité avec les voisins fait aussi partie du quotidien. Pour Clélia, étudiante en lettres modernes, la question de l'intimité se pose rapidement.
Est-ce qu'on se sent chez soi dans une chambre de bonne ? Je dirais que à la fois oui, à la fois non. Oui, on se sent chez soi parce que c'est quand même un endroit qu'on a créé, qu'on paye chaque mois. On est chez soi dans 9 mètres carrés. Donc voilà, c'est quand même 9 mètres carrés, donc c'est pas énorme, comme dirait Sarkozy, c'est la taille de sa prison. On entend un peu voilà, les voisins parler, les voisins sortir de chez eux, les animaux de compagnie. Mais en même temps, ça fait un peu une micro-vie en communauté. On est beaucoup de jeunes aussi, donc ça s'organise des petits before, des petits afters, ça sort en boîte aussi de temps en temps. Mais à certains moments, quand t'as 5h du matin, t'as ta voisine que t'adores, hein, qui rentre avec son mec et qui fait un bruit de dingue parce qu'elle est à moitié bourrée. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines complications qui peuvent s'y ajouter.
Malgré ces contraintes, beaucoup d'étudiants n'ont pas vraiment d'alternative sur le marché parisien.
Quand tu as besoin de prendre un peu ton petit appart, ton petit chez-toi, il n'y a pas forcément 1000 solutions en région parisienne ou à Paris. Et ça se tourne vite vers des chambres de bonne et on se retrouve à payer des loyers qui ne sont pas très chers pour 600 euros par mois. Alors oui, ça reste très cher lorsqu'on compare avec la province, etc. Mais ça reste voilà, une super expérience. Et puis on soutient beaucoup aussi entre voisins et voisines parce qu'il y en a beaucoup qui ont à peu près le même âge que moi. Donc voilà, ça fait une petite communauté et ça reste un super endroit et c'est une expérience à vivre.
Sous les toits de Paris, ces quelques mètres carrés sont souvent le premier logement étudiant. Un espace minuscule, mais parfois la seule porte d'entrée vers l'indépendance.
Merci Romain, grâce à toi je suis encore plus reconnaissante de mon appart insonorisé où je peux écouter de la musique tranquille.
D'ailleurs, ça y est, Harry Styles a sorti son nouvel album il y a 3 jours.
OMG, je me sens comme en 2014 pour la sortie de Four de One Direction.
Ça y est, mais là on parle de Kiss, de disco.
Ouais, et d'Amérique surtout, le voilà tombé fan du pire pays.
Sur ce, vous écoutez tout de suite American Girl de Harry Styles. d'écouter American Girls de Harry Styles. Il est 20h35 sur Cours d'honneur et 18h35 sur Radio Campus.
En tête de quel American Girl il parlait le Harry? Obviously, Zoé. Et bon, tout de suite, on parle de personnes qui sont moins riches que Zoé avec la chronique de Rouille.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez, la vedette, la table!
On est au début du mois, vous n'avez déjà plus un rond sur votre compte et vous voulez manger pour pas cher. Mathilde vous explique comment manger pour moins de 10 euros dans la France d'Emmanuel Macron.
On le sait tous, être étudiant, c'est aussi et surtout être fauché. Et dans un contexte où le moindre plat avoisine souvent les 15 euros, bah, c'est compliqué d'aller au resto. Et ça, deux anciens étudiants de la Sorbonne l'ont bien compris. C'est pourquoi ils ont décidé d'ouvrir un bar-restaurant à deux pas du campus de Jussieu où les prix sont alignés sur ceux du Crous. Autrement dit, le midi, rien ne dépasse les 4 euros. Ils s'appellent La Clap et tiennent leur promesse au 22 rue Linné dans le 5e arrondissement. Pour 3,90 euros, vous avez donc un hamburger maison à emporter et l'offre tourne en continu du lundi au vendredi. C'est moins cher qu'un sandwich à la boulangerie, moins cher qu'un même moins cher qu'un McDo, ça relève presque du miracle. Et si vous voulez un menu complet avec burger, frites, boissons ainsi qu'un endroit pour poser vos fesses, cela vous coûtera 6,90€. Là encore, c'est moins cher qu'un cheat meal. Pour rester dans les burgers, une autre adresse qui propose des sandwichs à bas prix, c'est Manger et Cassez-vous. Non, assez peu accueillant, je vous l'accorde, mais les prix sauront vous séduire. Vous pouvez manger des burgers frais maison pour la modique somme de 3,60€. Et si vous êtes gourmand, vous pouvez ajouter des frites pour 1,50€. Le tout revient donc à faible coût et en plus c'est délicieux. Alors rendez-vous au 39 rue Thébou dans le 9e arrondissement pour bien manger sans vous ruiner. Retour à présent dans le 5e arrondissement pour une adresse sicilienne cette fois-ci. Chez Golosino, vous pourrez y goûter des arancini géants pour 3,50€. C'est une spécialité culinaire de Sicile qui se présente sous la forme de boulettes de riz panées et frites farcies de divers ingrédients. Et vous trouverez également des pizzas roulées à 6€. Enfin, le bon plan à adopter au plus vite, c'est le Too Good To Go dont vous avez tous certainement entendu parler. En plus de proposer des produits à prix cassé, c'est aussi un mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est donc une offre gagnant-gagnant où vous achetez des invendus alimentaires pour pas cher. Pour ce faire, il vous faut télécharger l'application, y indiquer votre zone géographique que vous pourrez ensuite ajuster pour récupérer les paniers près de chez vous. Une alternative anti-gaspi qui a déjà séduit plus de 13 millions de Français. Alors pourquoi pas vous ? Avec ce carnet d'adresses et de bons plans, vous êtes maintenant paré à aborder une fin de mois gourmande sans être à découvert.
Merci Mathilde pour cette chronique, on peut dire que tu t'es bien débrouillée, hashtag lol, c'est vrai quand même, faut le dire, on est de sacrés journalistes en herbe.
C'est vrai qu'on aura toujours besoin de journalistes, quoi qu'on en dise, bien que la Santa Bonhomme Orange dise le contraire.
Exactement, effectivement. Bon allez, c'est pas pour rien qu'on est des boss ladies, puis même, c'est pas grave, allez, on s'aime quand même, mais pas autant que nos
deux tourteaux de Urban in Love.
Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Everybody's gonna love today,
gonna love today, gonna love today. La maison s'éveille, c'est un nouveau jour. C'est un nouveau monde. Moi j'ai besoin de poésie dans ma vie, et d'aventure, et d'amour. Love, love me.
Dans la chronique Sorbonne in Love, Clara nous a prévu un petit couple dont l'histoire vous réchauffera le cœur et vous réconfortera pour les beaux jours qui arrivent. Oui, vous aussi, vous pourrez vous balader sous le ciel bleu de Paris. Mais avant, écoutons parler de ceux qui savent ce que c'est d'être amoureux.
Ce soir, partons à la rencontre d'Adèle et François, non pas à la cérémonie des Césars, mais bien à la Sorbonne. Du haut de leurs 21 et 22 ans, tous deux sont en M1 de philosophie. Adèle, en philosophie des sciences, de la connaissance et l'esprit, et François, en histoire de la philosophie, métaphysique et phénoménologie. Si ces étudiants ont choisi l'Amphi Richelieu et la Bis à la place des caméras et des castings, ils sont ce soir sous le feu des projecteurs. Leur histoire est de celle où les dates se déroulent à des colloques, où l'admiration est liée à la faculté de juger, et où l'intérêt se trouve dans les discussions autour des entités et processus immatériels et invisibles, ce qu'on appelle la métaphysique. Si c'est l'attrait intellectuel qui a réuni nos deux tourtereaux, l'attirance physique est aussi de la partie. En effet, le duo prend forme après leur discussion dans la cour d'honneur à propos de la critique de la faculté de juger de Kant. Mais Adèle et François se contemplent depuis leur licence à Tolbiac. Lui apprécie particulièrement ses cheveux noirs, bouclés et volumineux. Elle aime ses yeux d'un bleu profond comme la mer et rajoute que c'est aussi son humour qui l'a fait chavirer. En début d'année, ils se retrouvent en cours autour de l'idéalisme allemand, ce qui permet à Adèle d'aborder celui qui l'intrigue depuis des années. Leur relation dure à présent depuis 6 mois, et il est temps que je vous laisse avec leur voix.
Tout commence en fait dans la cour d'honneur,
d'une passion commune qui est la philosophie, plutôt la métaphysique.
Moi, je t'avais repéré en licence à Tolbiac, je le voyais déjà un peu. Et il avait genre un groupe de copains et moi, j'avais un autre groupe et on s'était jamais vraiment parlé, tu vois. Et ça me faisait un peu peur et tout. On s'était un peu déjà entrevus parfois à des fêtes où on avait des copains en philo en commun. Moi, je lui souriais un peu, tu vois, gênée. Et une fois, je me retrouve comme ça dans la cour d'honneur.
On n'était pas loin l'un de l'autre sur deux bancs dans la cour et on est en train de lire tous les deux. Adèle vient me voir. Moi, je pensais qu'elle voulait me demander un feu. Et en fait, elle me demande qu'est-ce que tu es en train de lire. En fait, moi, je fais mon mémoire sur Cannes. Donc, j'étais en train de lire La critique de la faculté de juger. Et donc, je réponds.
Puis, ça a été tout de suite frappant parce que quand on a commencé à parler de Cannes, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment des lectures extrêmement similaires. Et moi, j'étais sûre que c'était un coup du destin.
C'est vraiment la rencontre autour de la critique de la faculté de juger qui a permis de conclure. Quoi. Et donc là, ça fait depuis fin septembre, début octobre que. On se fréquente.
Notre premier date, ça a été juste après la rencontre autour de la faculté de juger. Écoute, c'est moi, je lui ai dit, écoute, il est 18h, tu veux pas qu'on aille boire un coup ?
Sauf que moi, je pouvais pas ce soir-là parce que j'avais un colloque. Du coup, je l'ai emmené au colloque sur le néoplatonisme. Moi, je pense qu'il faut pas avoir peur, en fait, de demander aux gens qui ils sont, qu'est-ce qui les anime.
Avec François, on continue et on fait pousser, grandir cette passion commune de la philosophie. Donc, effectivement, on va énormément en colloque ensemble. On en parle, c'est quelque chose de très présent dans notre relation.
Merci Clara et merci Cour d'honneur d'avoir remis au goût du jour la chronique Love.
Non, j'en ai marre, l'amour, on n'entend parler que de ça, dans la rue, dans les films, sur les réseaux sociaux. C'est comme la nouvelle chanson d'Angèle en fait, c'est encore pire. Elle est partout en boucle et j'en veux pas.
Ah ouais, c'est pas What You Want ? Eh bien dommage, on l'écoute tout de suite.
What you want
. 18h44 sur Radio Campus Paris et 20h44 sur Radio Sorbonne Université. Vous venez d'écouter What You Want d'Angèle et Justice, nouveau feat sorti le 27 février.
Bon, je dois avouer que finalement, elle est pas mal la musique.
T'avoues aussi que l'amour est pas trop mal ?
Non, mais ça par contre change pas d'avis. Je suis comme l'étudiante dont va parler Elias, une judoka qui peut changer de prise mais ne change pas d'avis sur l'amour.
Prend la direction de la Sorbonne
en personne.
Les Jeux de Milan Cortina s'achèveront dimanche prochain, mais saviez-vous que la Sorbonne était elle aussi olympique ? Aujourd'hui, Elias vous raconte l'histoire de Romane Dico, ancienne étudiante à la Sorbonne et accessoirement double championne olympique de judo.
Et oui, fini le cardinal de Richelieu, Robert de Sorbonne ou autre vieux crouton dans les Sorbonnes en personne, je vous parle aujourd'hui de Romane Dico. Née en 1999, le 30 septembre, soit le même jour que...
Olivier Giroud.
Romane Dico s'intéresse au judo après les Jeux Olympiques de Londres en 2012 qu'elle regardait à la télé avec ses parents. La petite famille a suivi les exploits de la judokate médaillée de bronze française Audrey Tchemeo, avec qui elle partage des origines camerounaises. C'est la révélation pour la jeune Romane. Quelques mois plus tard, à 13 ans, elle s'inscrit au club de judo de Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Elle commence rapidement les compétitions et rêve déjà du plus haut niveau et elle a raison d'y croire. Seulement 3 ans plus tard, en 2016, elle est sacrée championne de France senior dans la catégorie des plus de 78 kilos. À 17 ans, elle a non seulement le gabarit, 1m80 pour 97 kg, mais surtout le talent des plus grands. Sauf qu'à la différence de ses homologues, elle n'est pas ceinture noire. Pour les moins judokas d'entre nous, il y a 11 ceintures à passer entre la blanche et la noire, donc en 3 ans, c'est un peu technique. Fraîchement championne de France, à 17 ans toujours, et visant déjà les championnats du monde l'année suivante, elle a quand même un bac S à passer. Et malheureusement, elle est contrainte d'arrêter le judo pour se concentrer sur ses études, et non, pas du tout. Elle est médaillée de bronze aux mondiaux, médaillée d'or aux championnats d'Europe, et elle a son bac S mention assez bien la même année, ça force au respect. Et comme si c'était pas suffisant, pour mieux faire décoller ses adversaires du tatami, elle a pour objectif de devenir ingénieure en aéronautique. En faisant mes petites recherches, il se trouve que j'ai plein de points communs avec Romane Dico, en plus d'être du 9-4, et née à Clamart, on étudie tous les deux les sciences à Sorbonne Université. Après le bac, elle s'inscrit en licence de mathématiques à Jussieu en 2017, un double défi ambitieux avec le judo, mais possible grâce à deux acteurs majeurs, le mécénat du Crédit Agricole Île-de-France et la fondation Sorbonne Université, dont on a d'ailleurs reçu le directeur général Romuald Gallet à cours d'honneur le 14 janvier dernier. En tant que sportif de haut niveau, son quotidien est bien différent de notre train-train CMTD. Sa journée type ? Quoi de mieux que Romane Dico elle-même pour en parler ?
Une journée type pour moi, c'est l'entraînement le matin, en général de 9h à 11h. Ensuite, je vais manger. J'ai cours ensuite en général de 14h à 16h. Et après, à 17h jusqu'à 19h, j'ai entraînement de judo l'après-midi. Et ça, tous les jours, toute la semaine.
4h de judo à la fac, en plus de ses entraînements en club, il y a de quoi être fatigué à la fin de la journée. Ce rythme, qui nous paraît à tous inhumain, lui a quand même permis d'obtenir sa licence de mathématiques en 2024. Elle participe juste après aux JO de Paris, au cours desquels elle a été médaillée de bronze en individuel, mais pas seulement. Aussi médaillée d'or par équipe, aux côtés d'une certaine Clarisse Agbenienou et d'un certain Teddy Riner. Aujourd'hui, Romane Dico poursuit ses études à Polytech Sorbonne pour devenir ingénieure aéronautique. Elle n'a rien lâché au judo car il y a un peu plus d'un mois, le 8 février, elle a remporté un des plus grands tournois du monde, le Paris Grand Slam. Sur Instagram, elle partage des bons plans culture, couture et cuisine, tout en s'imposant comme figure du body positivity en partenariat avec Nike ou la marque de lingerie Sans Complexe Lingerie. Ingénieure, championne, icône de mode et reine du calcul, Romane Dico, c'est la preuve vivante qu'à la Sorbonne, on apprend pas seulement à lire des vieux livres, on apprend aussi à écrire l'histoire.
Merci Elias pour ce portrait inspirant d'une femme inspirante, on ne peut que être admiratif.
Puis honnêtement, même si je ne l'étais pas, j'aurais envie de l'aide pour pas qu'elle me fasse une prise qui m'enverrait rejoindre mes ancêtres finalement.
Mais en attendant de partir vers l'au-delà, on va partir voir Mathilde pour un dépaysement total dans la carte postale.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Vivre à Paris, c'est s'habituer aux petites surfaces, à l'absence de jardins. Enfin, presque, parce que les jardins publics existent pour notre plus grand bien. Mathilde nous emmène avec elle en promenade dans l'un des plus beaux jardins de Paris.
Il se trouve à 10 minutes à pied seulement de notre belle Sorbonne-Mère dans le 6e arrondissement, j'ai nommé le Jardin du Luxembourg ou le Luco, pour les vrais parigots. Ceux qui ont la chance d'étudier dans le magnifique quartier latin peuvent, entre deux cours, aller se balader dans les allées calmes entre deux murs de feuillage taillés avec méthode, comme l'écrivait Maupassant. En partant de la Sorbonne, j'arpente la rue Soufflot qui descend vers le jardin du Luxembourg. Les vrombissements des voitures seront bientôt remplacés par le chant des oiseaux. J'entre par l'une des quatre entrées du jardin et je me dirige vers la fontaine de Médicis, éponyme de celle qui érigea ce petit paradis en plein cœur de Paris, car oui, c'est bien une femme qui est à l'origine de ce projet.
Il y a une femme là-dessous !
Aménagée par Marie de Médicis qui veut s'éloigner au plus vite du Louvre, car rappelons-le, c'est dans ce coin-là que son époux Henri IV a été assassiné le 14 mai 1610. Le jardin naît d'un désir de tranquillité. En 1612, la reine jette son dévolu sur un hôtel particulier entouré d'un parc de 8 hectares.
Oh, oh, c'est magnifique!
Elle n'aura ensuite de cesse d'acheter les terres avoisinantes. Aujourd'hui, le jardin compte environ 23 hectares. Mais revenons-en à la fontaine de Médicis. La reine voulait retrouver l'atmosphère des nymphées et fontaines des jardins italiens de son enfance. Elle envisagea ainsi de faire ériger nombre de grottes, fontaines, bassins et terrasses. Mais seule cette fontaine témoigne des réalisations souhaitées par la reine. En poursuivant mon chemin, je croise les poneys emblématiques du parc sur lesquels les enfants peuvent faire un tour. Et c'est assez marrant d'y voir les parents à côté qui essayent tant bien que mal de faire avancer l'animal.
Cannabis ! Cannabis !
Tu n'avances pas du tout, cannabis.
Ah, ces parisiens qui veulent jouer les campagnards, c'est mignon. En attendant, la seule trace de campagne que nous laissent ces poneys, ce sont leurs excréments. Alors vivement l'arrivée du printemps et des fleurs pour parfumer le jardin d'émanations plus florales. Au gré des pages qui se tournent, des rebonds de balles de tennis et des chaises vertes si lourdes qu'on est obligé de les traîner, le jardin du Luxembourg est surtout agréable pour ses sons. Comme dans un poème galant de Verlaine, c'est une véritable expérience sensorielle. Les bruits ambiants permettent de quitter un instant la frénésie de la ville. L'empressement des Parisiens semble s'évanouir lorsqu'ils pénètrent dans le jardin et ça doit être le seul moment où ils piétinent langoureusement au lieu de doubler leur prochain en soufflant.
Pas bien. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland.
L'aigreur ne passe pas les grilles du Luco. Bon, sauf quand un gars en face de vous accourt pour prendre la chaise que vous avez dans le viseur.
Voyou ! Égoïste ! Saligo !
Et même sans chaise, la promenade reste appréciable. Je passe ainsi devant le grand bassin où les enfants font voguer des voiliers miniatures, tradition perpétuée depuis le 19e siècle. Comme quoi, on n'a pas tout perdu des anciens. Et cette ambiance maritime se retrouve même dans le ciel, car en plein cœur de Paris, on trouve des mouettes rieuses ou pleureuses juste au-dessus des bassins. Paris ou Normandie, on ne sait plus trop, mais l'avantage ici, c'est que le voyage est gratuit. Après cette escapade, il est malheureusement temps de rentrer, mais ce que je trouve assez poétique avec ce jardin, eh bien ce sont ses horaires, puisque celui-ci les adapte tous les 15 jours au lever et au coucher du soleil. Tout est régi par l'étoile de feu. Ainsi, en plein mois de juin, vous pourrez rester dans le parc jusqu'à 21h30 contre 16h30 en décembre. Ce qui est en revanche moins poétique, c'est la sortie, hein. Non pas parce que c'est la fin de la promenade, mais plutôt en raison des coups de sifflet qui indiquent abruptement aux promeneurs que les grilles vont fermer. La première fois que je les ai entendus, j'ai cru à des enfants bruyants ou à des policiers poursuivant un criminel, mais non, c'était bel et bien pour nous. Bon allez, pour ne pas rester sur note mineure, je dirais malgré tout comme Alfred de Musset que l'aspect des allées du Luxembourg me fit bondir le cœur et toute autre pensée s'évanouit.
Waouh, merci beaucoup Mathilde pour cette excellente carte postale. Maintenant, je penserai à toi quand je verrai des mouettes rieuses ou pleureuses, plutôt que de penser à la mer. Et sur ce, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. On sait que vous êtes des auditeurs fidèles et honnêtes. Ça nous rend émotifs, surtout quand on connaît nos ex. Merci infiniment à notre invité Raphaël Lavie, interviewé par Ellie.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Radio Sorbonne Université, et sur Instagram, sur les plateformes de podcast, dans ta fac aussi. Et on dit merci aussi à toute l'équipe. Merci Clara.
Ça vous aura donné envie de lire de la philo, du Kant par exemple, voilà, ou de se réconcilier avec l'amour.
Oui, voilà.
Jamais. Et on dit aussi bye bye à Romain, merci beaucoup.
Et merci à vous et passez une bonne soirée.
Absolument.
Merci à toi, toi aussi. Et merci aussi à Mathilde.
Mais je vous en prie, j'ai pu revisiter le jardin du Luxembourg grâce à vous, donc ça me fait toujours autant plaisir.
Bah écoute, petit pique-nique la semaine pro. Merci aussi à Lavinia pour avoir été là, malgré l'effacement de sa chronique.
Eh bien écoutez, les cancans du quartier latin, ça va devenir un mythe à force, parce que j'arrête de les mentionner. Finalement. La prochaine fois, je vous promets.
T'as une chronique de prêtre, c'est pas grave.
Et on dit aussi au revoir à Elias, le fameux.
Pour toujours ?
Non, pas pour toujours. On le revoit dans deux semaines, le pauvre. Quand même.
Bah, on espère.
Non, bah merci à vous et merci tout le monde. C'était une super émission et hâte d'être à la prochaine.
Absolument. Et merci aussi à Thomas, le remplaçant, finalement.
Ouais, je suis toujours là. C'est sympa de me faire une place au stagiaire.
De temps en temps.
Enfin, un bisou à Jade aussi.
Un bisou à Jade qui est malade.
Qui est blessée.
Oui.
Et merci à Alice qui nous regarde
et
aussi.
Oui, qui ne participe plus, mais bon, elle est là. Allez, un bisou à nos amis de Radio Campus Paris qui nous souhaitent depuis toutes ces années.
On s'écoute dans deux semaines.
Avant de partir profiter du Sud.
D'ici là, on ne vous laisse aucun répit puisqu'on se retrouve en direct sur radiosorbonneuniversité.com.
Sur ce, on ne peut que vous souhaiter de bronzer.
L'année et de profiter du beau temps.
Si on ne se parle pas entre temps.
Et essayez quand même de parler de nous.
Et la prochaine fois que vous nous entendrez parler, on sera à Banyuls.
Comme Villefranche, mais cette fois-ci dans le Sud-Ouest.
Yeah.
Soyez vous-même.
Soyez vous-même.
Restez curieux.
Restez avec nous.
On vous aime.
Bisous.
Ciao.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.